Cultivons notre jardin.
Et alors, Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors, pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Et bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. Comment vas-tu, Jackie?
Écoute, ça va plutôt bien, il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien.
On a un grand et beau soleil. Alors là, on est en direct, savoir si sur les trois rediffusions qui suivent, ce sera pareil, nous le souhaitons. En tout cas, bienvenue dans Cultivons notre jardin. Bienvenue à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Jackie, fait beau, mais un petit peu tôt pour commencer le jardin. Alors, de quoi est-ce que tu as prévu de nous parler?
Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. On regarde du temps, là, où on n'a vraiment pas l'impression d'être encore en hiver. Et pourtant, n'anticipons rien. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Un sujet principal, un peu, sur la greffe. Hein. Ça va être le moment, en tout cas, de bien s'y préparer.
La greffe d'organes.
Voilà, on va... On va développer ça un petit peu plus technique. Donc ensuite, on va aussi parler des bizarreries de la nature, comme on avait fait. Hein,
et oui.
Voilà. Et puis, dans la deuxième partie, on va parler d'écologie pratique. Donc ça, ce sera toi qui vas en parler et on va y arriver tranquillement.
Tout devrait bien se passer.
Voilà. Alors, on va commencer peut-être par la greffe dès maintenant.
Hop, c'est parti. Donc, il est à fond, Jackie. Allez, vas-y, la greffe.
La greffe, c'est toujours deux parties. Hein, un porte-greffe et puis...
Et un greffon.
Et un greffon qui va être la variété. Donc, porte-greffe, eh ben, selon l'arbre qu'on va vouloir disposer dans notre jardin, si on veut que ce soit un arbre à grand développement, un moyen développement ou un petit développement, on aura affaire à des porte-greffes de nature différente. Hein. Celui qui a plus grand développement, ben, souvent, c'est du franc. Le franc, hein, je rappelle, on l'a dit plusieurs fois, mais pourquoi pas répéter, c'est un arbre qui est issu d'un pépin ou d'un noyau. Voilà.
Et non pas notre ancienne monnaie, puisqu'on est à l'euro maintenant. Hein, Jackie, tu es d'accord avec ça?
Exactement.
OK.
Et puis donc, après, ben, sur ce porte-greffe, hein, qui va amener de la sève et par l'intermédiaire de ses racines, on va pouvoir greffer une variété dessus, donc à l'aide de greffons. On va choisir plutôt une lune montante. Hein,
oui, dans la sève monte.
Voilà, que la sève monte bien dans le porte-greffe de façon à pouvoir passer dans le greffon. Ça, c'est important quand même à ce moment-là de faire attention à la lune.
Et le greffon, tu nous as bien expliqué la dernière fois comment le sélectionner, comment le conserver, tout ça dans son frigo. On est d'accord. Auditeurs qui n'auraient pas suivi la dernière fois, vous pourrez toujours la retrouver sur le site internet.
Voilà, et savoir qu'il est encore temps de récolter quelques greffons, mais surtout de bien les mettre au froid très rapidement.
Ben, là où il fait frais, parce que dans le sud, c'est trop tard.
Voilà, donc dans le sud, effectivement, on a de plus en plus d'arbres en fleurs. Mais rien n'empêche de connaître des gens qui sont en Orlozère, par exemple, et d'aller, ben, justement, ça peut être un moyen, leur rendre visite et puis voir s'ils n'auraient pas quelques greffons à nous redonner.
C'est l'occasion d'aller voir Mémé.
Voilà, et donc et de trouver principalement des variétés locales, hein, qui ont fait leur preuve au niveau climat ici, ça peut être important. On a aussi des bourses au greffon, hein, qui se développent, hein, un petit peu partout.
Ouais, il y en a plein là.
Voilà, donc ça, on vous en parlera dans le calendrier, hein, des activités. Donc un endroit où on peut ramener soi-même quelques greffons de variétés qu'on a sélectionnés dans son coin, et puis surtout en trouver d'autres, hein, qui sont déjà reconnus comme variétés dans le coin. On en parlait le week-end dernier à l'AG de Verger de Lozère, des gens qui recherchaient par exemple la balsiège, hein, qui était une petite pomme du coin.
Il y a la pomme de balsiège, la rainette de balsiège. Hein,
voilà. C'est... Alors, ouais. c'est la balle siège. Hein. Son nom, c'est
la balle siège. D'accord.
Comme on a aussi, on entend parler d'une pomme mandoise, c'est la rainette verte de Mende.
Oh, voilà, je ne la connaissais pas, celle-là.
Voilà, donc elle existe. Il va se passer un petit peu tout ça, aller chercher des greffons dans les bourses. Et puis, on va le voir aussi dans notre calendrier, bah, se développent des ateliers de greffe sur table où on peut aller, souvent c'est les jours de marché comme ça, aller sur place au marché dans votre... Il y a trois villes ou villages cette année. On en parlera sur la fin d'émission.
C'est quoi ces trois? C'est Langogne.
Alors de tête, j'ai un petit peu de mal. Non, je crois Génolac. Qu'il y a Saint-Chély.
Génolac.
Il y a Génolac. Et il m'en manque un justement. Il y a Génolac et puis.
J'ai piégé Jackie.
Et puis Saint-Chély en dernier. Le troisième, j'avoue. Peut-être on va voir ça tout à l'heure.
Sûr, à la fin, vous écoutez bien l'émission jusqu'à la fin, vous aurez le calendrier des activités de jardinage dans lequel on vous expliquera bien, parce que d'ici là, on sera opérationnel, n'est-ce pas, Jackie ? On vous expliquera bien où il faut aller, à quelle heure, voilà, vous ramenez votre fraise avec des greffons, etc.
Oui, avec ou sans, hein, d'ailleurs, parce qu'effectivement, vous pouvez aussi ramener des greffons qu'on vous greffe directement sur un porte-greffe, hein, parce que vous savez que la variété, vous ne savez pas au juste qu'est-ce que c'est, mais la variété de pommes chez votre voisin, mais vous savez qu'elles sont très bonnes, qu'elles se conservent bien, et bien pourquoi pas venir avec des greffons et les faire greffer à des greffeurs tout à fait compétents.
Hein. Si votre voisin est d'accord, hein, bien sûr, vous n'allez pas piquer les branches du voisin. Hein.
Voilà. Ou avec son
c'est l'occasion
accord,
de discuter avec lui.
Ou des fois, justement, de négocier ça aussi, de lui dire, bah, tiens, si tu me donnes des greffons, bah, peut-être je te ramènerai un des arbres, puisque moi, je vais aller sur le marché. Voilà, ça,
tout
c'est, on en parlera tout à l'heure dans le calendrier. On a pensé aussi parler des bizarreries de la nature.
Ah ben oui, toujours.
Donc là, c'est des...
T'as trouvé quelque chose, toi ?
C'est des sujets, voilà. Moi, je voulais vous parler un petit peu des vers de terre.
Comme hein, c'est charmant. C'est toujours très bucolique avec Jackie, le vers de terre. Alors, le lombric, vas-y.
Eh bien, en ce moment, on en entend parler, hein, parce que la pêche va bientôt ouvrir, donc il y aura besoin de vers de terre. Les vers de terre, vu le temps qu'on a en ce moment,
ils sortent.
Hein, on les voit souvent avec temps humide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment grand nombre d'espèces différentes
de lombric. Vers de terre. Voilà. De lombric ou de vers de terre ?
Ben, vers de terre, en règle générale, parce que le lombric en est un.
Oui.
Celui qu'on rencontre fréquemment quand on va retourner profondément son jardin. Mm. Hein, un ver qui a une quinzaine de centimètres de longueur, qui a une tête qui est beaucoup plus bordeaux comme couleur et le reste du corps plutôt gris. Ça, c'est une espèce de ver dans les vignes un petit peu...
Espèce de ver toi-même.
En dessous de chez nous, dans les vignes, dans le sud de la France, vous avez des vers de terre qui vont jusqu'à 40 cm de longueur, qui sont plus uniformément gris comme ça. Voilà, ils ont des besoins différents. Hein. C'est une autre espèce. Vous avez aussi, par exemple, les vers du compost, hein, petits vers de fumier, là, les petits vers rouges. Il faut savoir que ce ne sont pas des vers de terre, ce sont des vers de compost ou de fumier.
C'est ceux que j'ai dans mes pots, là, je te disais tout à l'heure, Jackie,
voilà,
des lombrics, mais tout fins et tout longs.
Voilà, tout à fait. Souvent très, très nerveux, hein,
oui.
D'ailleurs, quand on veut les...
Ça amuse beaucoup le chat, oui.
Voilà, donc voilà, ce sont des espèces différentes, hein. C'est important de le savoir. Alors, ce qu'on peut dire aussi des vers de terre, c'est que ce sont des bestioles qui sont hermaphrodites.
Ah ouais.
Et oui.
Ça, c'est une sacrée qualité. Bravo, le vers de terre.
Il n'y a pas de soucis comme ça. Enfin, il y en a bien, mais ce ne sont pas, en tout cas, pas des soucis vraiment, vraiment attribués à leur sexe, hein, puisqu'ils sont à la fois mâles et femelles. Peut-être ça vous est arrivé. Le matin, des fois, on peut trouver ça.
D'être mâle et femelle, je ne crois pas.
Peut-être
ça vous est arrivé, bah non.
Arriver de voir, laisse-moi finir. en fait deux vers qui sont pris l'un avec l'autre. Souvent, à la surface de notre jardin, si on y va tôt le matin, on peut trouver ça parce que les vers ont beaucoup d'activité la nuit. À tel point que ça a dû vous arriver aussi de vous poser, ou à toi peut-être, poser quelques
Qu'est-ce
questions.
Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver encore ? Vas-y,
devant le fait que, on retrouve une feuille sèche, hein, une feuille d'automne, qui va, au lieu d'être à plat sur mon jardin, elle est un petit peu enroulée comme un cigare et plantée. Dans la terre du jardin.
Ah non, ça m'est jamais arrivé.
Alors, c'est parce que tu ne te lèves pas assez tôt, peut-être.
C'est bien possible.
Ou que tu n'es pas au jardin quand tu te lèves. Mais il faut savoir que pendant la nuit, justement, les vers vont sortir et puis les végétaux en décomposition, c'est leur nourriture privilégiée. Donc, ils vont arriver avec leur mucus à entourer un petit peu une feuille comme ça, l'enrouler et puis essayer de la ramener dans leur trou. Et souvent, remarquez ça le matin, on en voit qui sont plantés comme ça.
Je regarderai mieux.
Voilà, parce que le ver, il a un mucus sur sa peau. Et en fait, c'est très compliqué pour lui d'être dans la journée au soleil parce que ce mucus va se dessécher. Donc la nuit il sort, pas de problème pour son mucus, et la journée il rentre. En ce moment, on les voit beaucoup parce qu'en fait ils sont pas loin de la surface. Plus on a un temps sec, plus les vers descendent profond dans le sol, justement pour avoir cette espèce de microclimat, surtout d'avoir cette humidité, en fait, qui va leur permettre de vivre comme il faut. Donc c'est important de savoir que le niveau d'enfouissement est dû à l'humidité. Et alors, comme anecdote un petit peu, parce que c'est déjà connaître un petit peu mieux ces bestioles qu'on voit, qu'on connaît. Alors si, je n'ai pas dit que ça fait partie d'une famille particulière, hein, les vers de terre. Je disais tout à l'heure des bestioles. Et bien, en fait, ce sont des annélidés.
Annélidés.
Donc, à cause des anneaux. Donc, ce sont des annélidés.
Si vous le regardez bien, le lombric, on dit « ah oui, oui », puis on passe. Mais le lombric, si vous le regardez bien, c'est comme si c'était tout un tas d'anneaux les uns derrière les autres. Ouais, c'est ça.
Alors, une anecdote, quand on est pêcheur et qu'on va chercher des vers, moi, je faisais ça souvent en Normandie, comme ça. On plante une bêche dans le sol et on remue le manche de la bêche. Ça va créer quelques vibrations au niveau du sol.
Et
magique, ils sortent.
Magie.
Pourquoi ils sortent ?
Parce que, tu plantes la bêche et tu fais des vibrations, ils ont peur, ils se cassent. Hop.
Voilà. Alors, le pourquoi, c'est simple. C'est que, en fait, des vibrations comme ça, qui peuvent se passer au niveau du sol, ça ressemble aux vibrations quand il y a la pluie.
Ah, de la pluie.
La pluie. Et donc, s'il y a de la pluie, comme je disais tout à l'heure, avec l'humidité, ils vont sortir, ils vont aller manger. Et voilà la petite histoire.
D'accord. Sinon, vous pouvez prendre votre petit arrosoir, arroser un petit bout et hop, ils sortent.
C'est un pas si évident que ça.
La bêche,
c'est vraiment parce que ça fait beaucoup, beaucoup de vibrations, comme s'il y avait beaucoup d'eau.
Beaucoup
et
de
là,
pluie.
Là, ça les motive.
Ça les réveille. Bon. D'accord.
Alors, à toi de nous trouver un petit organisme vivant peu bizarroïde.
Alors moi je suis toujours sur le même petit organisme vivant un peu bizarroïde, c'est la fourmi. La dernière fois, tu te rappelles Jackie,
oui.
Je vous avais raconté que la fourmi c'est 20% de la masse totale des insectes dans le monde, à peu près équivalente à la masse d'êtres humains. Et voilà, je suis toujours sur les fourmis. Alors je suis allée voir comment ça se passe à l'intérieur de la colonie de fourmis. Donc, dans une colonie de fourmis, il y a plein de monde et tout est très organisé. Tu le sais, ça, Jackie.
Oui, ça,
d'accord,
bien sûr.
Donc,
c'est une société.
C'est une vraie société. Les rôles des fourmis, ils vont être distribués selon la taille, en fait, des individus. En fonction de la taille de la fourmi à la naissance, elles vont être triées, soit pour être des grosses reines, soit... c'est charmant, la grosse reine. Ou alors des petites ouvrières. Elles seront des petites ouvrières qui vont faire le ménage, entre autres. Et certaines sont chargées d'aller chercher la nourriture à l'extérieur de la fourmilière. Ça, c'est la fourmi qui fait les courses.
Voilà.
Et donc, elle va chercher le nectar des fleurs et elle le ramène à la fourmilière.
Oui.
Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand elles reviennent à la fourmilière, nos fourmis qui font les courses, y en a d'autres qui les attendent, certaines ouvrières qui ont été désignées pour tenir le rôle de réservoir vivant, en fait. Et en fait, on va remplir leur abdomen à ces fourmis jusqu'à ce qu'ils soient complètement ballonnés. Donc en fait, ça fait vraiment un gros pot. Et les autres le remplissent avec du nectar, celles qui sont allées faire les courses. Et quand il est vraiment très très gros, l'abdomen qui ne peut pas être plus gros, qu'il est complètement ballonné, elles peuvent quasiment plus se déplacer, et bien elles vont se traîner jusqu'au plafond de la fourmilière où elles vont se laisser pendre un peu comme des chauves-souris. Et en fait, elles vont servir de garde à manger vivant pour le reste de la colonie. Et on les appelle les fourmis peau de miel. C'est mignon, hein ?
C'est mignon, oui, on peut le dire comme ça. En tout
ouais,
cas,
on peut le dire comme ça, mais pas forcément.
C'est très pratique.
Ouais.
Ouais, effectivement, là, on garde l'emballage qui est vivant, en fait. Et, oui, alors, allez voir sur Internet, hein, pour ceux que ça amuse comme ça, c'est vraiment assez extraordinaire parce que l'abdomen devient quasiment transparent.
C'est ça.
Et on voit, on devine le miel au travers de la peau.
Ouais, 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 c'est vraiment impressionnant. Elles sont malines, ces fourmis.
Voilà.
Elles sont très malines.
Bon, alors on va peut-être faire un petit peu de musique. Tu nous as prévu quelque chose.
Tu veux un peu chanter, un peu danser. Qu'est-ce que tu veux faire, Jackie?
Je veux t'écouter.
Tu veux m'écouter chanter? Tu vas pas être déçue. Ben non, on va écouter un petit peu. On l'avait déjà écouté, mais comme on aime bien, on le repasse. C'est Sage comme des sauvages qui va nous chanter « Brindille à mon enfant ». C'est une petite chanson toute mignonne qui fait du bien. Allez, on vous dit à tout à l'heure.
Donne-moi un récit à tirer les couteaux, où ennemi change visage en frère et chante là aussi. Donne à moi un récit à porter sur le dos, les si jolies la face de misère et chante là aussi. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance et brise-elle ici. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance. C'est brisé ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font une famille ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à mon enfant. Donne à manger moins comprendre. À se montrer les dents, n'a fait festin du coq de bataille et chante là aussi. Donne à moi un récit à pleurer les parents, les t'oublier l'été des fiançailles et chante là aussi. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance. C'est brisé ici. Amène aussi la souffrance. Amène aussi la souffrance. C'est brisé ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Du moment que c'est pas là, tu me manques ici même, tu me manques là même, ça me manque ici même. Du moment que c'est pas là même, celui qu'on m'a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à nos enfants. Donne à manger moins qu'on prend.
On dirait qu'elle est terminée, notre jolie petite musique. Mais elle s'est terminée avant qu'on l'ait même imaginée. Heureusement qu'on est réactif, hein ?
Heureusement. Alors, donc, on va peut-être passer à ta chronique maintenant, que tu devais nous parler d'initiatives françaises.
Oui, j'ai trouvé deux initiatives locales, voire très locales, pour une d'entre elles, qui m'ont bien plu. Alors, je voulais vous les faire partager, chères auditrices et chers auditeurs.
Et oui, puis l'écologie pratique, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une rubrique qu'on pourrait essayer de garder dans l'émission, d'avoir des exemples bien précis de ce qui peut nous amener à plus d'écologie comme ça, des réflexions. Alors en plus, la première, ça me va très bien parce que c'est quelqu'un qui est...
C'est l'écologie gourmande.
Et puis qui est en plus, comme moi, natif de Normandie.
Voilà. Elle est juste pour Jackie, celle-là. Alors en matière d'écologie gourmande, on a un jeune ingénieur normand, effectivement, comme Jackie, qui a mis au point une tasse à café à croquer, en alternative en fait, au gobelet plastique ou carton. Et en fait, c'est vraiment une gourmandise. Il s'appelle Nicolas Richardot. C'est quelqu'un qui est cuisinier dans l'âme et qui réfléchissait à une alternative au gobelet plastique. Et en fait, il a conçu une petite tasse. Ça se présente vraiment sous la forme d'une petite tasse sans anse, en biscuit.
Un petit gobelet, quoi.
Un petit gobelet en gâteau. Elle est réalisée à partir d'œufs bio, de farine normande, de sucre et de cacao français. Bon, là, par contre, sur le cacao français, j'ai un petit doute. Et qu'est-ce que tu en penses ?
C'est des fèves de cacao qui ont été transformées
en
chocolat français.
Voilà. Mais voilà. La fève, en France, on n'y arrivera jamais. Hein. Enfin, pas avant un certain temps. Et donc, en fait, ça fait un petit café gourmand. Le biscuit, dans son intérieur, il est recouvert d'une fine couche de chocolat. Et ce nappage ne modifie en rien le goût du café. C'est là que c'est génial, en fait. C'est que le café et le chocolat sont comme l'huile et l'eau. Ce sont des produits qui ne se mélangent pas, tout simplement. Donc, en fait, votre café dans votre petite tasse en biscuit nappé de chocolat à l'intérieur, votre café, il n'aura pas le goût de chocolat. Une fois que vous l'avez bu, votre café, ben, vous mangez la tasse.
Voilà. Ou on la met au compost si on n'aime pas ça.
Ouais, ça serait dommage.
Oui, non, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas manger du chocolat ou un biscuit avec leur café. Donc c'est toujours possible. Mais effectivement, moi je serais plutôt de ceux qui.
Qui vont manger la tasse. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est un biscuit qui ne va pas fondre même au contact d'un café très chaud. En fait, il a travaillé avec deux laboratoires pour trouver la bonne formule qui est aujourd'hui brevetée. Et au début, il faisait lui-même, ce Nicolas Richardot, il faisait son petit biscuit dans sa cuisine. Et puis, une fois que le produit a été mis au point, il n'a pas pu honorer les commandes, tout simplement, qui arrivaient par milliers. Ça a fait un tabac d'entrée de jeu. Et donc, il vient d'ouvrir son unité de production en Normandie, dans le Cotentin, pour répondre à cette demande exponentielle.
Mais oui, surtout que c'était une demande des traiteurs, non ?
Oui.
Qui, justement, ont l'habitude de faire des choses pour les collectivités comme ça.
Ouais, ces fameux traiteurs qu'on est en train d'essayer d'obliger légalement à être un petit peu plus éco-responsables, en leur demandant notamment de ne plus servir de gobelets en plastique sur les buffets, bah du coup, c'est une super solution pour eux parce qu'ils ont un 3-en-1, ils ont un contenant éco-responsable, ils ont le chocolat et le biscuit. Alors plutôt que d'avoir la tasse à café avec le biscuit à côté dans son petit emballage plastique individuel, c'est quand même génial. C'est pas grand-chose. Mais ça peut changer pas mal de choses, finalement, je trouve.
C'est important. C'est des idées style concours Lépine. Hein.
Exactement. Voilà. Ouais. Et donc, ça s'appelle Tassiopé. C'est joli comme nom.
Tassiopé. Voilà. En plus, ça rejoint un peu nos arbres, quelque part.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, ben, j'espère qu'on va en avoir en Lozère bientôt, qu'on va les voir arriver, ces petits gobelets, parce que c'est quand même une super idée.
Et alors donc, tu avais une deuxième trouvaille un petit peu dans ce domaine. Et alors là, c'était plutôt local puisqu'il s'agit de laine de brebis.
Oui.
Et
là, c'est encore un super produit. C'est le premier sac isotherme 100% naturel fabriqué en Occitanie. Mais oui. Et en fait, ça s'appelle le Mouton Givré, cette petite entreprise. Ce sont deux habitantes d'Occitanie qui l'ont conçu, Cynthia Borne et Elodie Madebos. Et en fait, c'est le Mouton Givré, ses dirigeantes, elles ont conçu un produit innovant et durable, le premier sac isotherme zéro plastique en chanvre et en feutre de laine.
Et ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Donc, c'est un sac isotherme, évidemment, zéro plastique, écologique, pratique, innovant, fabriqué en Occitanie. La classe.
Ah oui, ça, c'est chouette. Tu peux nous en dire plus?
Oui, alors, c'est comme tu nous disais, c'est effectivement fabriqué avec de la laine de brebis. Et en fait, c'est après avoir été au contact des éleveurs de brebis qu'a germé l'idée dans la tête de Cynthia, une des deux créatrices de l'entreprise. Elle est couturière de profession. Et donc, elle discutait avec des éleveurs de moutons dans le Lot qui recherchaient une solution pour valoriser leur laine. Ce qui n'est pas facile parce qu'il faut savoir qu'en France, seulement 10% de la laine est transformée ici en France. Le reste part à l'étranger.
Eh oui.
Donc voilà une matière locale dont on ne fait pas grand-chose finalement depuis quelques temps, quelques braves dizaines d'années. Donc l'idée première, c'est vraiment de revaloriser cette matière, cette ressource locale en fait.
Oui, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu, c'est qu'ils utilisent quand même des laines très courtes, celles qui n'ont pas des fibres assez longues pour faire des pelotes de laine, justement. Donc, il y a un recyclage en même temps d'une matière qui était difficilement exploitable.
Oui, c'est exactement ça. En fait, elles vont travailler à partir d'un feutre de laine qui est élaboré à partir de fibres courtes qui ne sont pas exploitables pour la production de pelotes de laine. Et pour ce faire, elles travaillent avec une scope ardéchoise qu'on connaît bien dans le coin. Je sais que régulièrement... Ils viennent à la Biocoop demande. C'est une scope qui s'appelle Ardelaine, qui ne fabrique que des produits en laine naturelle et locale. Donc, ils font du matelas, des couettes, des oreillers, mais aussi des vêtements, plein de choses. Ardelaine. Mmh. Et donc, en fait, elles se sont associées avec cette petite scope-là pour créer leurs produits, leur sac isotherme.
Eh ben voilà une très belle idée et valorisation de la laine locale. Ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est à double détente, quoi. Hein. Non seulement oui. C'est on supprime le plastique, mais en plus on valorise le local. Donc, ce qui veut dire aussi pour nous ici, circuit court, etc. Enfin, tout est bien réalisé.
On est bien d'accord. On revient à des choses un petit peu plus cohérentes. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est une participation à un concours de création d'entreprise qui a lancé le concours, c'est la start-up et dans le prêt hein, qui est organisé par Adoc. Elles ont gagné en mai 2019 ce concours de création. Et c'est vrai qu'au départ, elles n'étaient pas trop parties pour se lancer tout de suite. Et puis finalement, quand elles ont vu le succès que rencontraient leurs produits à ce concours de créateurs, eh ben, ça leur a donné un petit coup d'accélérateur et elles ont bien, bien avancé. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'elles disent toutes les deux, c'est qu'elles souhaitent s'engager de par leur travail, elles souhaitent s'engager sur la leur. Elles disent, je les cite, « Nous ressentons le besoin urgent de travailler autrement tout en donnant du sens à notre métier. » En créant et développant une entreprise à échelle humaine, en respectant les valeurs de chacun et de notre planète. Voilà, l'objectif du Mouton Givré, c'est de contribuer au développement d'une filière de production de chanvre textile en Occitanie, d'innover et de créer de l'emploi en milieu rural.
Avec quoi de plus beau ?
Il n'y a pas de raison après que ça ne marche pas.
Eh oui.
Ouais, donc c'est chouette. Voilà, ça c'était la deuxième petite idée. Donc aujourd'hui, on a les tasses à café qui se mangent. Et le premier sac isotherme local, durable, écologique en laine de mouton et que vous avez à vie, à mon avis, une fois que vous en avez un, c'est à vie. C'est voilà. Le genre de produit qu'on ne jette pas.
Nous, on a l'avantage d'avoir une photo du produit et c'est vraiment très joli.
Il est très beau, ce petit sac.
Très sobre, avec de la toile de jute claire sur l'extérieur. C'est un très beau produit.
Voilà, donc le mouton givré, vous trouverez le mouton givré, pardon, étasiopé. Vous trouverez plus d'infos sur Internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà.
Alors maintenant, on va peut-être passer aux questions d'auditeurs.
On peut faire ça, si tu veux. Oui, je suis d'accord.
Puisqu'on a la chance d'en avoir deux aujourd'hui.
Oui. Tu vois, avec le soleil qui revient, les gens commencent à se poser des questions jardin, on dirait.
Voilà.
C'est une bonne chose. Alors, la première question, c'est Jean-Claude de Roufiac qui nous demande « Que fait-on aujourd'hui au jardin alors que la végétation repart et qu'il peut encore geler ?»
Oui, alors là, c'est toujours la même question du printemps. Hein. Ça va être, a priori, de pire en pire. Ça se dire, mais alors, tout autour de moi a démarré. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux toucher à ces végétaux, etc. Ben, sachez quand même que, pour moi, le maître mot, c'est l'observation. En observant, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui démarrent. Hein. On a vu quelques fleurs, genre prime vert, etc., qui commencent les crocus.
Les crocus, j'ai vu, ouais.
Voilà, même dans les jardins bien exposés, il y a aussi les jacinthes qui démarrent. Moi, j'ai des émérocales, j'ai des choses comme ça. Mais tout ça, ce sont des plantes qui peuvent supporter aussi du froid.
Oui.
Donc, c'est ça qui est très important. On ne va pas se précipiter dans les jardineries pour acheter des petites fleurs qui sont normalement des fleurs de printemps. Les fleurs qui sont dans le jardin comme ça, bah même si elles démarrent très tôt, elles peuvent supporter un peu la gelée. C'est par exemple le cas des pensées hein, aussi. Les
oui.
pensées, les violas, cornuta, tout ça sont des plantes qui sont adaptées. Donc effectivement, on a toujours des craintes parce qu'on voit les bourgeons qui commencent à se développer. Sachez que ces bourgeons, si on a un mois et demi de grand froid, eh ben, ils peuvent rester stagnés là où ils en sont. Certains végétaux, c'est plus difficile. Je pense par exemple aux frênes ou aux noyers qui attendent très, très tard pour faire leurs feuilles. Et eux, effectivement, s'il y a une gelée tardive après qu'ils aient sorti leurs feuilles, on va voir que ces feuilles noircissent, tombent.
Oh.
Mais la nature étant bien faite, ils vont en refaire d'autres après. Donc, pas trop d'inquiétude. Hein donc, et on observe, on regarde. Effectivement, déjà, les noisetiers, par exemple, ont bien développé leurs chatons, hein, qui sont les fleurs mâles. Mais si la fleur femelle a été fécondée, ça va rester comme ça en l'état pendant un moment. Ça ne va pas se développer tout de suite. Donc, pas trop de crainte. On est dans un dérèglement climatique. Ça paraît de plus en plus
ouais,
évident.
Ouais.
Hein on a beaucoup moins de monde, on a beaucoup moins de sceptiques hein, qu'il y a quelques années en arrière.
Donc, si les sceptiques aujourd'hui disent « Ah, mais vous avez vu, ce n'est pas un réchauffement climatique. »
Oui, hein. C'est ça. c'est pour ça que je parle plutôt de dérèglement. Hein,
parce voilà, on est d'accord. On est dans un dérèglement voilà. Et non pas dans un réchauffement.
Voilà. Donc, on pourra avoir, ne présageons de rien, mais en mars-avril, on pourra avoir aussi très froid. Ça, c'est tout à fait possible.
Mais on ne peut pas savoir, c'est ça, Liv.
Voilà. Et il ne faut pas trop s'inquiéter parce que la nature, de toute façon, s'adapte.
Ouais.
Certaines plantes, effectivement, vont pouvoir en mourir. Ça veut dire aussi que d'autres vont prendre la place. Hein, il va y avoir un changement dans la végétation spontanée, qu'on appelle, c'est-à-dire la végétation naturelle qui vient comme ça. Comme exemple, je dirais, quand on descend dans le sud, sur les causes, par exemple, eh ben, au début, on va avoir plus d'herbes et plus on va descendre, plus on va avoir du thym serpolé, du lavandin, des choses comme ça.
Mmh.
Et en fait, il y a bien une limite aussi qui se passe naturellement et où les plantes, ben, y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Donc, cette limite va peut-être évoluer un petit peu, c'est-à-dire que les plantes du sud sont en train de remonter quand même vers le massif central, mais ça va se faire très progressivement, surtout pas de panique. Peut-être qu'il va falloir se dire, il faudra adapter, avoir plus dans mon jardin d'agrément, bah plus des plantes méditerranéennes, peut-être dans 10 ans.
On va pouvoir faire des bananes en Lozère, je suis contente.
Voilà, ça c'est plutôt des plantes tropicales que des plantes méditerranéennes. Donc non, ça veut dire effectivement qu'on va avoir des cistes ou des belles plantes comme ça, hein, des plantes sauvages qui vont remonter par chez nous. On le dit en ce moment, la limite du chêne vert, qui est en train de remonter aussi par les Cévennes. Là.
Voilà. Qu'est-ce qui va leur rester en bas si tout remonte?
Le problème, c'est dans 50 ans, on risque d'être assez désertique.
Sur le sud,
le bord de la Méditerranée.
Et oui.
Donc, et effectivement, et donc, ils auront les scorpions, ils auront les cactus.
Super. Voilà. Tout ce qui pique, on va leur laisser.
Non, mais en tout cas, bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a rien de dramatique vraiment. Il y aura, une accoutumance des plantes. Hein, mais de toute façon, soyons raisonnables. En Lozère, on cherche aussi à avoir des citronniers, des orangers, des choses comme ça. Alors qu'on met sous la véranda ou sous la serre, et ben peut-être que dans quelques années, on n'aura plus besoin de véranda ou de serre. On cherche de toute façon toujours à avoir des plantes un petit peu difficiles. C'est le truc du jardinier, ça. Hein. Donc, voilà, certaines plantes vont s'adapter, d'autres non. Et on aura, on aura la faculté de regarder ça et d'adapter notre jardin.
Oui, c'est ça, mais pas d'affolement. On s'assied et on regarde. Voilà, donc, on est d'accord?
Pour répondre à la question, comment je vais faire? Je vais faire comme d'habitude, mais surtout, il est trop tôt en saison. Nous ne sommes qu'au mois de février. Donc, il ne faut pas se dire c'est un mois de février comme une fin mars. Et donc, je vais faire ce que je faisais en fin mars. Il faut se dire, on est en février. Et peut-être qu'au mois de mars, il va faire froid. Et que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. De toute façon, les plantes sont habituées, en quelque sorte, à réagir. Je prendrai juste un exemple. C'est l'exemple des rosiers.
Oui.
Les rosiers qu'on a, pour faire un petit peu plus propre, qu'on a taillé un petit peu haut à l'automne, là, pour virer les derniers gras de cul, hein, les derniers fruits qu'il y avait dessus, vous pourrez commencer à remarquer qu'il y a des feuilles, effectivement, qui vont commencer à pousser. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je taille mes rosiers. Ça veut dire que la saison est douce. Et s'il y a un gros gel, c'est ces petits départs qui se passent en haut de la branche risque de noircir, de geler, mais j'ai des bourgeons jusqu'en bas. Mmh. Et donc, au mois de mars-avril, quand ce sera le moment de tailler les rosiers, je le ferai. Surtout pas de précipitation.
Oui, puis quand ce sera le moment de tailler les rosiers, ce sera le moment d'enlever éventuellement ce qui aura gelé, effectivement.
Voilà.
Mmh, mmh. D'accord. Bon, alors vous avez compris, on s'énerve pas. Alors, nouvelle question d'auditrice cette fois. C'est Valérie Demande qui nous parle de son jardin. Alors, elle nous dit « J'ai un petit jardin que je fais avec un ami, mais lui, le pauvre, il n'y connaît rien. Alors, c'est moi qui prends les décisions. » Et là, on se posait la question du labour. Alors, bien sûr, pas labouré profond, on est bien d'accord, mais Valérie nous dit qu'elle a entendu dire que dans les premiers centimètres du sol en surface, il y avait une vie qui permettait aussi de protéger celle qui est plus en profondeur. Alors, du coup, elle se demande même si elle va gratter le dessus de la terre. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Valérie, pour son petit jardin?
Voilà. Alors, là aussi, la première des choses, comme je viens de dire pour la question précédente, on ne se presse pas. On ne se presse pas parce qu'on n'est pas encore à l'époque de gratter sa surface de terre. Oui. À mon sens, il faut attendre que cette surface soit chaude. Donc, pour l'instant, wait and see. Mmh. On va attendre plutôt fin février, voire mi-mars, selon les endroits où on est, pour commencer à gratouiller tout ça. Effectivement, dans sa question, il y a des choses qui sont tout à fait justes. Et alors, je vais essayer de reprendre ça. La terre que l'on cultive, en fait, c'est ce qu'on appelle la terre arable. Oui. C'est-à-dire la terre de surface, hein, sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur. C'est une terre qui s'est amendée naturellement en règle générale par la chute des feuilles, par l'érosion, donc des poussières qui peuvent arriver dedans. Tout ça, à force de centaines d'années, ça a fait ce qu'on appelle la terre arable, que je vais après pouvoir continuer à amender. Hein, et si je fais un potager, bien sûr, cette terre va avoir plus de besoins. C'est pour ça que je vais y amener de l'amendement. Mmh. Donc, cette terre, en fait, moi, je suis de plus en plus contre le labour. Hein. C'est une pratique qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. En fait, dans cette terre arable, vous avez des micro-organismes. Hein, micro-organismes, j'entends, ça peut être aussi bien des bactéries que des petits animaux. Hein,
oui.
Petits animaux, donc on parlait des vers, mais il y a aussi des collemboles, il y a même des araignées, il y a tout un tas de petites bêtes comme ça. Alors, savoir que dans les 5 premiers centimètres de surface, eh ben, ces petites bêtes qui vivent là sont des bêtes qui ont besoin de la lumière. Hein, c'est pour ça qu'elles vivent
au-dessus,
en haut de la Terre.
Ouais.
En dessous, bah, ça va être des bêtes qui n'ont besoin que de l'obscurité, voire qui pourraient même mourir en pleine lumière.
Et d'humidité, comme le lombric.
Et d'humidité aussi, justement. Et c'est là où ils vont réguler, justement, comme je disais pour les lombrics, et ben, ou descendre ou remonter selon l'hygrométrie. Si je m'amuse à labourer, c'est-à-dire labourer, ben c'est simple, hein, c'est retourner la terre sur 20 cm ou 30 cm de profondeur. Ça veut dire que ces petites bestioles qui étaient en bas pour vivre dans cette terre, qui étaient bien tranquillement à l'abri de la lumière, ben ils vont se retrouver en pleine lumière, en plein air sec aussi. Ils risquent donc de crever. Les autres petites bestioles qui vont se retrouver en dessous, alors qu'elles avaient besoin de lumière, elles se retrouvent complètement submergées, elles n'ont pas de lumière. Elles risquent aussi de mourir. Il va falloir un temps...
Tout est mélangé, c'est le bordel.
Voilà, il va surtout falloir un temps assez long à la Terre pour se reconstituer à partir de ça. Donc... très souvent, on se rend compte que finalement, les plantes, c'est dans les 10 premiers centimètres de surface qu'ils vont avoir des besoins. Donc moi, ce que je me contente de faire maintenant, c'est à la griffe, hein, donc avec un croc qu'on appelle ici, hein, une griffe à quatre dents, je vais juste gratouiller ma surface comme ça, y apporter de l'amendement organique, hein, toujours pour améliorer ma terre, pour donner à manger aux plantes que je vais mettre dedans. Et en fait, donc, je vais rester sur cette surface-là en essayant le moins possible de retourner ma terre. Il y a un outil comme ça, la grelinette, hein, qui s'appelle aussi, qui nous permet de faire ce genre de choses où, en fait, on va enfoncer la grelinette et appuyer sur les manches, ce qui fait qu'au lieu de retourner ma terre, je vais la déplacer, la décompacter et la déplacer.
L'aérer, en fait.
Je ne vais pas... intervertir mes bestioles. Oui.
Ouais. Mais on dit que tu grattes avec ta petite griffe, en termes d'épaisseur par rapport à la profondeur du sol, tu dirais que tu fais quoi, 2-3 cm, tu vas bouger légèrement ?
Entre 5 et 10 cm.
Ah, quand même, hein.
Ben oui, mais parce qu'un sol qui a été entretenu comme ça, un sol de jardin,
oui.
La griffe, c'est un outil assez lourd, et très rapidement, ça peut descendre un petit peu comme ça. Mais voilà, plutôt à déplacer un petit peu ma terre qu'à la retourner.
Oui, hein, plutôt la grelinette.
Simplement décrouter un petit peu comme ça, on
D'accord.
pourrait dire. Voilà, bon. J'espère que...
Je crois que...
Que Valérie demande...
que nous aurons bien répondu à sa demande.
Voilà, j'espère qu'elle va suivre ça à la lettre. Et puis surtout, comme je le demande souvent aux auditeurs, de faire savoir, après, quand ça a marché, de faire un retour, c'est toujours agréable.
Oui, merci Valérie donc de nous faire un retour sur vos prochaines cultures. Super. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour des questions d'auditeurs. Je vous rappelle au passage que pour vos questions, vous pouvez nous envoyer un mail à redac@48fm.org. Vous pouvez aussi passer par la page Facebook de la radio, hein, 48FM. Et voilà.
Et on essaiera de répondre au mieux à vos questions.
Exactement.
Alors, on va peut-être passer maintenant à l'agenda des activités, hein, puisque le printemps, quand même, arrive à grands pas.
Oui.
À ce propos, d'ailleurs, on va avoir un moment sans émission.
Une petite interruption pour cause de campagne municipale, désolé. Donc, voilà.
Donc, on va laisser la place aux politiques, mais on vous promet qu'on reviendra après. Hein.
Ouais, sans problème. En attendant, vous pourrez toujours réécouter les émissions sur le site internet de 48FM, bien sûr.
Et oui, puisque celle-ci, c'est la 29e quand même. Hein, donc,
ouais.
Pour ceux qui ont du retard, n'hésitez pas à aller rechercher ça sur le net. En plus, c'est bien fait. Il y a des titres aux émissions. Ça pourra vous permettre de voir s'il y a des sujets qui vous intéressent.
Voilà, puis si on vous manque trop, ben, ça peut être un palliatif. Hein. Qu'est-ce qu'on dit ? Si c'est vraiment trop dur de plus entendre Jackie et Nat, bon, d'accord. Alors, dans notre calendrier des activités, tu commences, Jackie, qu'est-ce qu'on avait à raconter
ben oui,
là
alors, par exemple, par l'association Jardin Nature 48, hein, qui va organiser le 29 février, à la fin du mois, là, à 14h30 à Mende, dans le jardin de Marion Thibault, il y aura un atelier sur la taille et les soins à apporter aux rosiers au printemps.
D'accord. Hein,
d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de bien attendre au moins la fin du mois. Voilà, donc là, c'est sur Mende, c'est comme ça. On serait à Saint-Chély, je vous dirais, attendez la fin du mois d'avril.
Voilà. Voir, oui, mais c'est comme voir ça, la c'est fin vrai. Du mois de juin.
Non, non, il ne faut pas être désagréable non plus, mais il faut faire ça au bon moment.
On est d'accord. Ok, alors après, qu'est-ce qu'on a ? On a le samedi 7 mars, toujours avec Jardin Nature 48, à Sainte-Hélène, à 14h30. Vous pourrez assister à un atelier de taille de printemps des arbres fruitiers. Ça, c'est important aussi, de bien tailler ces arbres fruitiers.
Voilà. Et puis là, ça vous donne une bonne... C'est le moment de le faire. Hein. Donc, vous pouvez très bien assister à l'atelier et puis après, faire ça chez vous. La semaine d'après, toujours la même association, le 14 mars à 14h30, là c'est à la salle des fêtes de Laval du Tarn, il y aura un atelier de confection de totems en osier. Ça c'est pour mettre dans le jardin ces totems et faire courir dessus des plantes grimpantes. Souvent dans le jardin d'agrément, et bien on a besoin un petit peu de volume comme ça et pourquoi pas mettre une clématite dessus ou semer quelques graines paumées au pied.
Ouais, je vais peut-être y aller à celui-là parce que je crois que je pourrais avoir besoin de totems en osier bientôt.
Faut pas hésiter. Parce qu'en plus, une fois qu'on en a fait une fois, qu'on a compris la technique,
on fait tout seul.
On peut le refaire.
Yes, vive l'autonomie. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on peut continuer un peu, étant donné cette petite période d'interruption, n'est-ce pas ? Donc, on aura le samedi 21 mars à 14h30 à Pelgeire, commune de Badarou, à côté de Mende, un atelier d'initiation au montage d'un mur en pierre sèche. Ça, c'est sympa aussi pour aménager vos extérieurs, hein.
Et oui, ça sert toujours dans le jardin. Et ouais. Puis ça attire la biodiversité. Donc oui. Ça, c'est intéressant. Le 29 mars à 14h30, alors là, on est à Ispagnac. Il y aura un atelier de printemps sur le compost, le semis et le démarrage du jardin potager.
Bah, ça, c'est pour Jean-Claude de Roufiac qui voulait commencer à faire son jardin. Ben non, Jean-Claude, vous attendrez le dimanche 29 mars. Vous commencerez par aller à l'atelier à Ispagnac et ensuite, vous verrez chez vous.
Il y a l'autre solution qui est de le faire avant et puis de se rendre compte le 29 mars de tout ce qu'on a fait de travers.
Pour rien. Et ça, c'est un peu triste. Nous, comme on aime nos auditeurs, on leur donne les bonnes infos, Jackie. Attention.
Alors, en ce qui concerne Verger de Lozère maintenant, le samedi 29 février.
Ouais.
Là, on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais il y a un rendez-vous à Alès, hein, de 10h du matin à 17h. C'est une bourse aux greffons et aux semences qui est organisée par le centre de pomologie d'Alès. Alors, c'est un petit peu loin. Des fois, ça peut être intéressant d'essayer de covoiturer. Voyez avec peut-être Verger de Lozère qui a un site hein, sur Internet et savoir s'il n'y a pas un moyen d'y aller parce que c'est vraiment très, très intéressant. Donc, greffons de tous arbres, de vignes, etc. Et puis, ce sont des semences aussi de variétés anciennes. Un petit exemple, par exemple, sachez qu'il se cultive toujours du pois chiche noir des Cévennes.
Ah oui, on en parlait tout à l'heure.
Voilà, et ben, ce sera l'occasion d'en trouver.
Bon.
Et une bourse, c'est intéressant parce que ça veut dire que, encore une fois... C'est pas un commerce, on n'achète pas. Alors vous venez avec une ou deux bricoles et puis vous échangerez là-bas.
Ouais, parfait. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, puisqu'on est sur les greffes, hein, c'était le thème de notre début d'émission. Le samedi 14 mars, à partir de 8h à Génolac, pendant le marché hebdomadaire, vous aurez un atelier de greffe sur table, toujours avec Verger de Lozère.
Et donc, le deux semaines après, le 28 mars, à partir de 8h, il y aura un atelier de greffe sur table qui est organisé pendant le marché hebdomadaire.
Ça, c'est les bonnes infos de Jackie. On l'a toujours pas, la ville. Mais ça viendra. Il ne faut pas s'inquiéter.
J'ai pas la ville. Mais
sinon, il faut aller voir du côté du site internet de Verger de Lozère. Voilà, et vous trouverez le lieu précis. C'est pas compliqué quand même. On peut pas toujours tout leur mâcher aux gens, finalement.
Voilà. Et finalement. Début avril, ce sera à Saint-Chély-d'Apcher. Voilà.
Oui. Ok. Alors, sinon, on se recentre un peu là sur le bassin de vie de Mende et on va aller voir du côté des animations du programme local de prévention des déchets. On a des ateliers donc, qui commencent le samedi 18 avril par une formation au compostage. Ce sera au Chastel Nouvelle et ce sera de 9h à 11h30 et ce sera accompagné par l'ALEP, l'ALEP Jackie.
Avec, oui,
eh ben, qui viennent de c'est eux qui ont réintroduit le Milan Royal, là, non ? Tu sais qui était blessé ?
Ah oui,
on l'a entendu aux infos.
Oui.
Hein.
Qui n'ont pas réintroduit, c'est-à-dire qu'il avait été, un oiseau blessé avait été prélevé.
Oui,
Il a été retapé au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Millau. Et il, 3 semaines après, il a été rendu sa liberté à l'endroit même où il avait été trouvé.
Exactement. Il avait été trouvé avec du plomb dans l'aile quand même.
Voilà.
No comment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le mardi 21 avril. Ah oui, ça, c'est un truc sympa. Je vais en faire, je t'en ferai, Jackie, tu verras. Le 21 avril, on a un atelier anti-gaspi, une réalisation de recettes avec les restes. Donc ça, c'est souvent très, très sympa. Et en bonus, on a un atelier bisvrap. Tu sais, c'est pour fabriquer ces tissus enduits de cire d'abeille qui te servent à conserver les aliments.
J'ai une fille qui en fait.
Ah bon, ben voilà. Ça ne sert à rien si je t'en fais, alors c'est nul. C'est
nul. Mais je peux attester que c'est vraiment...
C'est pratique, hein.
Super pratique par rapport à ces plastiques qu'on mettait, etc. Sur le coup, moi, j'ai regardé ça un peu comme une lubie de jeunes comme ça.
Ouais.
Ma fille nous en a fait et on lui en a redemandé parce qu'on conserve tout comme ça. Là, l'autre jour, j'avais du radis noir comme ça. Allez, hop, le radis noir, il était coupé à la moitié.
Ouais.
On remet ça par-dessus, on met ça au frigo et quand on le ressort, il est impeccable. J'atteste que ça fonctionne très très bien. Et alors on est en plein dans le truc de gaspillons pas des plastiques partout comme ça. Ça se nettoie. Moi j'avais des soucis où je me disais aussi mais comment ça se nettoie et tout. Eh bien ça se nettoie très bien à l'eau claire en fait grâce à cette pellicule de cire qu'il y a dessus.
Oui.
C'est impeccable. C'est impeccable.
Bon, ben voilà, ce sera le mardi 21 avril à Rieutort de Randon. Et en bonus, donc vous aurez de 18h à 20h30 une créatrice culinaire, Anna Jancelevich. J'espère que je le propose bien.
Ah, bon, c'est bien.
Que j'ai déjà croisé un petit peu et qui est effectivement très, très créative et qui est excellente sur la préparation des restes. Donc, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à y aller. Il y aura aussi Laurane Manasse qui fera une petite animation nature. Donc, Laurane du réel. Voilà.
Voilà, alors après, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin...
Il y en a plein, mais on vous le dira.
On vous en reparlera. Il faut savoir quand même que les places aux ateliers sont limitées. Donc, pour participer, les personnes intéressées devront s'inscrire auprès du plan local...
Programme local de prévention des déchets.
Programme local, pardon, de prévention des déchets. Et donc là, je peux même donner le numéro de téléphone.
Hein. Allez, vas-y.
07 87 61... 76.
Encore un
et
numéro.
79.
Voilà.
Hein, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Essayez. C'est des ateliers qui sont très intéressants. Donc essayez de vous inscrire rapidement.
Ouais.
Bon. Et la ressourcerie, tu nous en parles ?
Oui, alors la ressourcerie, ben, continue ses ateliers réparticipent tous les deuxièmes samedis après-midi de chaque mois. Donc ça se passe au tiers-lieu solidaire sur le foirail de Mende, là, au Fab Lab. C'est des mots bizarres, ça, tu trouves pas, Jackie, ces
Fab
mots
Lab,
tiers-lieu solidaire,
dis,
tout ça.
Pinus sylvestris, on me saute dessus.
Et que tu
dessus,
te fais engueuler.
Là, Fab Lab.
Bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous vous mettez sur le foirail, vous regardez du côté de l'antirouille, ça devrait vous aider pour les trouver. Et donc, c'est le moment de venir apprendre à réparer plutôt que de jeter. Évidemment, vos divers types de matériel, le petit appareil électroménager, Hi-Fi, J'en ai une d'ailleurs sous le coude. Le petit outillage, l'optique, voilà, ce sont des ateliers qui sont gratuits et ouverts à tous, où on vient apprendre à réparer et partager nos connaissances, échanger, etc. Donc le prochain aura lieu le samedi 14 mars, donc de 14h30 à 17h30 au Fab Lab de Mende. Et ensuite, vous en aurez un le samedi 11 avril. Mais voilà, grosso modo, c'est tous les deuxièmes samedis après-midi de chaque mois, la récup à Mende au Fab Lab sur le Foirail pour réparer tous vos appareils.
Et ben voilà, nous espérons que cette émission vous aura plu.
Oui, c'est sûr.
N'hésitez pas à réagir en laissant messages, questions, on vous le disait tout à l'heure, par courriel, redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio.
Voilà, toujours le site internet de la radio pour réécouter les émissions. Et puis voilà, donc nous vous laissons pendant quelques temps sur cette petite pause municipale et on se retrouve très bientôt, Jackie. En attendant, on vous laisse dans la joie et la bonne humeur avec une nouvelle chanson de Sages comme des Sauvages. Et cette fois-ci, ce sera Laïlo Como. D'accord, Jackie ?
Eh ben, ce sera la pause musicale avant la pause municipale.
C'est ça, exactement.
Au revoir à tous.
Au revoir, à bientôt.
Tout s'arrange pas comme je le croyais.